Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 24 août 2016. Au sommaire ce soir.
À la CPI, l'accusation requiert une peine de 9 à 11 ans de prison contre le djihadiste malien ayant plaidé coupable pour la destruction de mosquées et mausolées à Tombouctou.
Au Gabon, le candidat à la présidence Jean Ping demande un débat télévisé avec le président sortant Ali Bongo Ondimba.
Séisme en Italie, au moins 120 morts selon le gouvernement.
Comme à chaque édition, un segment spécial sur la présidentielle de novembre aux États-Unis.
Et bien sûr, l'économie et les sports.
Juste après le journal.
On commence dans l'est de la République démocratique du Congo. Deux hommes ont été lynchés puis brûlés par la population de Butembo dans la province du Nord Kivu. D'après l'AFP, ils étaient soupçonnés de vouloir rejoindre les auteurs d'une série de massacres à l'arme blanche dans la région de Beni. Sikuliuva Saka Makala, maire de la ville de Butembo, a condamné ce lynchage.
Et nous restons en RDC. 32 personnes ont été arrêtées hier en marge de la journée ville morte décrétée par l'opposition. Tel est le bilan avancé par les Nations Unies. Ces arrestations ont eu lieu dans la capitale Kinshasa et à Mbujimayi, dans le centre du pays, d'après le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Et certaines personnes interpellées ont été accusées d'avoir affiché des comportements contraires à une manifestation pacifique. Mais il y a eu aussi des cas d'arrestation arbitraires, affirme l'ONU.
Les Nations Unies ont exprimé par ailleurs leurs préoccupations face à l'extension d'une épidémie de choléra qui a touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. L'épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord-Ubangi, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la RCA.
Controverse électorale au Gabon, à quelques jours de la présidentielle de dimanche, l'opposant Jean Ping propose un débat télévisé avec le président Ali Bongo Ondimba, suggestion déclinée par le chef de l'État sortant. De Libreville, les précisions de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. En effet, ici, M. Jean Ping, des candidats, a invité Ali Bongo Ondimba à un débat télévisé devant la nation sous le titre du Conseil national de la communication. Le camp Bongo se demande pourquoi seulement Ali Bongo, puisqu'il y a d'autres candidats et pourquoi il devrait faire un face-à-face avec M. Ping. Et d'autant qu'aussi la loi gabonaise apparemment ne permet pas cela. Et le CNC dont fait allusion M. Ping organise tous les soirs une émission qui s'appelle Le Débat où tous les autres candidats répondent à des questions de journalistes. On en est là. Mais quant à la faisabilité, c'est-à-dire 3 jours avant le scrutin, choisir les journalistes, se mettre d'accord sur quand et où et comment, en tout cas ici, ça donne l'impression d'avoir été une autre pièce politique que Jean Ping a tendue à Bongo.
Merci Idriss Fall.
Suite à l'arrêt du procès de la destruction des mausolées dans le Nord Mali, ce mercredi, l'accusation a officiellement requis une peine allant de 9 à 11 ans de prison à l'encontre du djihadiste malien jugé par la CPI pour avoir détruit des mausolées à Tombouctou, Bagassi Koura.
Selon Gilles Dutêtre, représentant de la procureure, cette peine reflète un équilibre juste et appréciable entre l'effet dissuasif qu'elle doit avoir et l'attitude de l'accusé. À l'ouverture du procès lundi, accusation et défense avaient annoncé qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi s'engageait à ne pas faire appel si la condamnation est équivalente à la peine requise. Cet accord ne lie pas les juges qui peuvent décider d'une peine allant jusqu'à 30 ans de détention. L'accusé avait plaidé coupable lundi de la destruction en juin et juillet 2012 de 9 des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Selon l'accusation, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi était le chef d'orchestre d'attaque visant à mettre fin aux prières et aux rites menés en ces lieux, contraire à la charia ou la loi islamique. La cour prononcera son jugement le 27 septembre.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait l'éloge des ONG travaillant au Nigeria pour leur engagement indéfectible à bâtir des communautés, lutter contre la corruption et transformer le pays. John Kerry a rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales de lutte contre la corruption et un groupe de jeunes filles qui étudient et travaillent sur les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, à l'ambassade des États-Unis dans la capitale du Nigeria, Abuja, ce mercredi.
Le lutte contre le terrorisme, Henri Oka, un ressortissant nigérian condamné à 24 ans de prison en Afrique du Sud, a fait appel devant la Cour suprême. Il a été condamné en 2013 dans ce pays pour avoir organisé une série d'attentats au Nigeria.
Manifestation au Zimbabwe, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau des militants du principal parti d'opposition qui protestaient justement contre les violences policières. Selon l'AFP, des jeunes militants du mouvement pour le changement démocratique ont défilé dans le centre-ville d'Harare et des affrontements ont éclaté avec les policiers.
Libye, le conseil présidentiel s'engage à soumettre au nouveau cabinet, plutôt les noms des membres du nouveau cabinet au Parlement. Les législateurs ont en effet rejeté la liste des ministres du gouvernement d'Union nationale, selon un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Italie, un puissant séisme a frappé le centre du pays aux alentours de 3h30 du matin, faisant au moins 120 morts et de nombreux disparus, a indiqué le gouvernement. Et des dizaines de bâtiments ont été détruits et de nombreuses personnes sont encore prises au piège. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le bilan de ce séisme de magnitude 6,2 a partiellement détruit au moins 3 villages dans une région montagneuse au nord-est de Rome. Immacolata Portiglione, chef du département urgence de la protection civile italienne, a averti que le bilan pourrait être plus lourd. Les premières images parvenues des villages les plus touchés révèlent l'ampleur des destructions. Des immeubles ne sont plus que des ruines. Des secouristes fouillent les décombres à main nue dans l'espoir de retrouver des survivants. Des habitants hagards se regroupent dans les rues ou les places de leur village, partiellement détruits en quelques secondes. L'une des communes les plus touchées, Pescara del Tronto, petit village de quelques centaines d'habitants, semble rayée de la carte. Selon l'agence AGI, des centaines de disparus, pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées, alors qu'ils dormaient à point fermé, sont toujours recherchés.
Un puissant séisme a secoué le centre nord du Myanmar, donc la Birmanie, ce mercredi, tuant au moins 3 personnes et endommageant environ 60 édifices religieux bouddhistes. Deux des victimes sont les filles de 7 et 15 ans. La secousse tellurique a été ressentie jusqu'à Bangkok, en Thaïlande, et dans la ville de Kolkata, en Inde, soit sur une distance d'à peu près 1000 km. Un séisme si profond, environ 84 km selon les experts, cause généralement moins de dégâts en surface.
Le vice-président américain Joe Biden poursuit sa tournée en Turquie où il tente de réparer les dommages de la relation américano-turque éprouvée par le coup d'État manqué et également parler de la Syrie. Les précisions de John Lindon.
Joe Biden était attendu avec impatience par Ankara et est le plus haut responsable occidental à se rendre en Turquie depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, dont la Turquie a accusé l'ex-imam Fethullah Gülen, en exil ici aux États-Unis depuis 1999, d'en être le cerveau. Ankara réclame à corps et à cri depuis le push manqué l'extradition du prédicateur à Washington, qui a demandé un retour des preuves plutôt que des allégations et ne semble pas démesurément pressé de s'atteler à l'examen de ce dossier explosif. L'écrasante majorité des Turcs semble convaincue de la responsabilité de Gülen dans le putsch raté. L'ex-imam a, lui, formellement nié toute implication. La Syrie devrait également constituer un important volet des discussions de Joe Biden en Turquie. Sa visite intervient au moment où les forces armées turques ont lancé une opération en Syrie en coordination avec la coalition anti-djihadiste et donc avec le soutien américain.
L'université américaine d'Afghanistan à Kaboul était la cible d'une attaque aujourd'hui, selon des sources contactées par l'AFP. Les étudiants ont affirmé avoir entendu les explosions et les tirs alors qu'ils restaient cloîtrés dans leur salle de classe. Certains ont envoyé des messages de détresse sur Twitter. On ignore l'auteur ou le mobile de cette attaque. On parle de plusieurs blessés. Il y a 2 semaines, 2 enseignants de l'université ont été enlevés. L'institution entretient plusieurs partenariats et programmes d'échange avec de prestigieuses universités aux États-Unis et se présente comme la seule université privée à but non lucratif, non partisane et mixte en Afghanistan.
4 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués ce mercredi dans une attaque de drone dans le sud du Yémen, selon un responsable des services de sécurité cité par l'AFP. L'attaque est survenue alors que les 4 hommes étaient à bord d'un véhicule circulant entre la capitale et la province de Chabwa et la ville de Nisab, plus à l'ouest.
Les États-Unis et le Japon ont demandé que le Conseil de sécurité de l'ONU tienne des consultations après le nouveau lancement de missiles effectué par la Corée du Nord, selon les diplomates. Cette réunion à huis clos pourrait se tenir cet après-midi à New York. Pyongyang a tiré aujourd'hui depuis un sous-marin un missile qui a parcouru environ 500 km en direction du Japon, ce qui constitue pour les experts une nette avancée dans les programmes balistiques nord-coréens.
Revenant d'Afrique, le secrétaire d'État américain John Kerry a entamé aujourd'hui une visite en Arabie Saoudite pour tenter de pousser à une solution politique au Yémen où la guerre s'éternise avec des critiques croissantes sur son bilan humain. Monsieur Kerry devait s'entretenir dans la soirée avec le très influent vice-prince héritier Mohamed Ben Salman avant d'être reçu demain par le roi Salman. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec John Linden.
Le gouvernement du Zimbabwe prévoit de supprimer environ la moitié des emplois dans le département de l'agriculture. D'après un fonctionnaire, l'administration du président Robert Mugabe a du mal à payer les salaires. Le pays est confronté à une pénurie de liquidités. Le Zimbabwe, qui consacre 82% de son budget annuel national au salaire, a annoncé qu'il ne serait plus en mesure d'embaucher de nouveaux fonctionnaires. Au ministère de l'Agriculture, donc, environ 8000 personnes pourraient perdre leur emploi. Plus de 2000 ouvriers de Lobito, le deuxième plus grand port d'Angola, ont entamé un mouvement de grève hier pour protester contre le non-paiement de leur salaire. Le port de Lobito est victime de la crise économique et financière qui a touché les importations de marchandises, a fait savoir Domingo Isata, porte-parole de l'entreprise publique qui gère le dit port. L'Angola est premier producteur de pétrole d'Afrique avec 1,78 million de barils jour. La Banque centrale du Nigeria a interdit à 9 banques locales d'effectuer des transactions en devises, les accusant de retenue à la source de 2,1 milliards de dollars des fonds du gouvernement. L'une des banques concernées, First City Monument Bank, blâme la situation macroéconomique désastreuse plutôt que la dissimulation ou la non-conformité volontaire.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Match de barrage retour de la Ligue des Champions ce mercredi.
Manchester City de Pep Guardiola sans inquiétude après son succès 5-0 à l'aller en Roumanie contre le Steaua Bucarest. Les autres rencontres, l'Apoel Nicosie contre Copenhague, le FC Rostov contre l'Ajax d'Amsterdam, Salzbourg contre le Dynamo Zagreb et le Borussia Mönchengladbach contre les Young Boys de Berne. Hier, l'Apoel Beersheva s'est imposé 2-0 insuffisant. C'est le Celtic Glasgow qui s'est qualifié. Match nul de partout entre le Victoria Plzeň et le Ludogorets. Ce sont les Bulgares qui passent le prochain tour. Monaco qui bat Villarreal 1-0 pour se qualifier. Grosse surprise, l'élimination de l'AS Rome à domicile, battu 3-0 par les Portugais du FC Porto. Enfin, le Legia Varsovie qui passe pour le prochain tour après son match nul 1-1 contre Dundalk.
Le tirage au sort de la phase de groupe aura ensuite lieu ce jeudi à Monaco.
Le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui a remporté au printemps dernier sa 11e Ligue des Champions, sera demain lors du tirage au sort effectué à partir de 16h temps universel. Qui seront ses adversaires? Personne depuis le Milan AC en 1990 n'a réussi à conserver son titre de champion d'Europe d'une année sur l'autre. Et les différents prétendants sont bien armés, notamment le FC Barcelone avec Messi, Suarez ou Neymar. Au Bayern de Munich, on note Renato Sanchez et l'excellent défenseur central Mats Hummels. À noter également l'Atlético et la Juventus de Turin. La Juventus qui a perdu l'homme le plus cher du monde, Paul Pogba, parti à Manchester United. On rappelle que les Red Devils ne joueront que l'Europa League.
Et enfin, mort de l'ancien patron de l'athlétisme kényan.
Isaiah Kiplagat, l'ex-patron de la Fédération d'athlétisme kényan pendant plus de 20 ans, est sous le coup d'une enquête pour des faits présumés de dopage et de corruption, est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. Fin novembre, l'année dernière, M. Kiplagat et son vice-président David Okeyo, ainsi que l'ancien trésorier Joseph Kinyua, avaient été suspendus de leurs fonctions par la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Nouvelle initiative des autorités dans le nord du Cameroun pour venir en aide aux familles de déplacés suite à l'insurrection de Boko Haram. Le don de 2 chèvres leur permet de se remettre sur pied. Reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par Claire Morin-Gibourg.
Boukaraba, un père de famille d'une 40aine d'années, tire ses 2 chèvres hors du petit enclos situé derrière sa maison à Mozogo, une ville située sur la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria.
Sur le plan quotidien, on peut payer les frais de scolarité pour nos enfants, on peut aller à l'hôpital avec, on peut manger, ça pouvait nous remplacer le mille dans plusieurs domaines. On a plusieurs difficultés, telles que on n'a pas l'eau.
Boukaraba a reçu 2 chèvres ce mois-ci dans le cadre d'une initiative de la Croix-Rouge française et du gouvernement du Cameroun. Moudjed Dieudonné travaille pour le responsable de la Croix-Rouge française qui pilote le projet.
L'activité consiste à donner à chaque ménage bénéficiaire un couple de chèvres et après un temps, dès que la chèvre a mis bas, on récupère les parents, on donne à un autre ménage jusqu'à atteindre les 510 ménages. Et ça va se faire dans les 15 mois que couvre le projet. À côté de ces activités, il y a une activité psychosociale qui consiste à appuyer 1020 groupes de personnes déplacées internes et de personnes autochtones sur des causeries par rapport aux violences qu'elles ont subies. Parce qu'on a constaté qu'on peut mettre à la disposition des populations la nourriture en qualité et en quantité suffisante. Mais si les règles d'hygiène ne sont pas respectées, les populations vont continuer par être malades. Donc on est en train de développer une activité à partir des boîtes à images, des sensibilisations sur l'hygiène et la diversification alimentaire.
Environ 200 personnes ont reçu un couple de chèvres à ce jour. Boko Haram mène des attaques dans le nord du Cameroun depuis plus de 3 ans et le conflit frappe l'économie locale durement. L'Institut des statistiques camerounais indique que le taux de chômage à la frontière avec le Nigeria est de plus de 90%. Selon le gouvernement, la pauvreté rend les jeunes plus vulnérables au recrutement de Boko Haram. Beaucoup de jeunes ont abandonné l'élevage du bétail dans leur village à la suite des violences. Pour Moudjed Dieudonné de la Croix-Rouge, l'insécurité demeure une inquiétude.
Les équipes de projet sur le terrain ne puissent pas se mouvoir tranquillement, mais elles arrivent à s'adapter. Donc il y a une difficulté sur la stabilité des personnes qui se déplacent, donc des personnes déplacées en interne. Ces personnes sont toujours en mouvement, c'est-à-dire que même quand vous avez fini de les identifier dans une localité, vous revenez le lendemain, ils n'y sont plus. En totalité, ça fauche un peu dans la réalisation des activités. Parce que ces personnes sont toujours en train de rechercher les milieux favorables pour s'installer.
Il y a quelques mois, les Nations Unies, des ONG et les gouvernements du Cameroun et du Japon ont construit un marché de bétail dans le village de Zamaï, où les jeunes peuvent vendre les chèvres qu'ils élèvent. Le Cameroun a également débloqué un fonds d'urgence de 4 millions de dollars pour créer des emplois pour les jeunes dans sa région nord, frontalière avec le Nigeria.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les autorités congolaises et l'Organisation des Nations Unies ont lancé depuis une semaine une des plus larges opérations de vaccination préventive contre la fièvre jaune jamais organisée en Afrique. Le docteur Léon Kinouani, médecin-chef épidémiologiste chargé de nouveaux vaccins à l'OMS Kinshasa, affirme que l'engouement est total, avec un taux de 85%. Il évoque aussi les méthodes utilisées et la disponibilité des vaccins. Il est actuellement avec une équipe de l'OMS à la frontière avec l'Angola et il est joint au téléphone par Nani Talani.
Nous avons largement dépassé 85% déjà au sixième jour. Et là, donc, nous sommes en train d'aller avoir pratiquement toute la cible revue. Et les autorités, surtout les autorités coutumières, nous facilitent la tâche et sensibilisent davantage les communautés. Et donc, nous avons un bon score au septième jour. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés. Il n'y a pas de résistance, pas du tout.
Est-ce qu'on peut savoir les méthodes que vous utilisez? Est-ce que c'est vous qui allez dans les domiciles des gens ou les gens viennent dans les centres de santé?
Les méthodes utilisées, c'est une méthode, je dirais, passive et active en même temps. Passive dans la mesure où il y a des sites de vaccination qui sont placés à proximité des communautés. Les populations viennent de ces sites. Et de l'autre côté, je peux dire que c'est également une stratégie active parce que ces sites ont été placés non loin des communautés, même si les communautés viennent aussi de vaccination, mais il faut avouer que ces sites sont beaucoup plus proches des communautés. Donc, la personne qui franchit la longue distance, en tout cas, il fait entre 25 à 30 minutes pour trouver un site de vaccination. Lorsqu'un rayon est supposé avoir été bien couvert, les équipes se déplacent pour aller rencontrer population supposée n'avoir pas été couverte par les sites de vaccination.
Est-ce que vous n'êtes pas confronté au problème du manque de vaccins?
Non, ici, il n'y a pas de problème de vaccins. Hein. Tous les vaccins sont là, il n'y a pas eu de rupture. En tout cas, de ce côté-là, les dispositions étaient bien prises. Nous avons une équipe logistique. Nous avons l'appui de nos collègues qui sont venus de Afro-Brazzaville, des collègues qui sont venus de l'Isté à Libreville. Il y a même des collègues qui sont venus du Sénégal pour nous appuyer. Tout se passe très bien, on n'a pas de problème de l'Isté.
On peut donc dire que cette campagne de vaccination est une vraie réussite.
C'est une grande réussite. La population a bien accueilli, a beaucoup salué. En tout cas, nous sommes à Kifokolo, c'est pratiquement à la frontière avec l'Angola. Il y a un enthousiasme tout unique. Les gens ont beaucoup salué. C'est une grande réussite.
Voilà, c'était le docteur Léon Kinoigny, médecin-chef épidémiologiste chargé des vaccins à l'OMS Kinshasa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Rio 2016, c'est fini, les Jeux sont faits. Le continent africain a décroché au total 45 médailles. C'est historique, mais cette question revient sur le tapis. L'Afrique fait-elle assez pour ses sportifs? L'athlétisme, par exemple, est-il bien géré pour encourager les nombreux talents dans les 54 pays africains? Quelle la solution pour une meilleure moisson de médailles dans les grandes compétitions internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Morgane, mettons le cap sur le Burkina Faso pour parler de transport public et d'énergie.
Les taxis devront bientôt cesser de circuler au gaz butane. Les autorités qui considèrent cette source d'énergie inadaptée et dangereuse leur ont donné jusqu'au 30 octobre. Du coup, les taximans s'organisent pour faire face à la nouvelle donne. Le reportage à Ouagadougou de notre correspondant Issa Napon.
Les taximens burkinabés sont dans l'expectative. Le 30 octobre 2016, ils devront abandonner ce qui était leur vache à lait, le gaz butane. Sur le côté ouest du grand marché de Ouagadougou, zone de stationnement de taxis, une vingtaine de véhicules attendent des clients. Les avis des taximens sont partagés. L'un d'eux, Abdou, est pourtant confiant.
Nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes en train de négocier à ce que le gouvernement nous octroie des véhicules et des fonds puisqu'on puisse changer le moteur à gaz au moteur diesel ou au moteur essence. Une fois que les fonds sont là, deux jours, moins une semaine, on arrive à tout changer.
Le compte à rebours avance et les taximen attendent avec une pointe d'anxiété pour une bonne partie d'entre eux la transformation en acte concret de la promesse d'accompagnement du gouvernement pour leur abandon définitif du gaz domestique comme source d'énergie, ce qui motive la réserve de Soulé, un autre taximan. Si l'aide promise ne vient pas, même s'ils donnent un délai de 2 mois supplémentaires, ça sera vain. Nos autorités doivent se pencher sérieusement sur notre cas pour éviter de mettre le pays négativement sous le projecteur. 2002 taxis fonctionnent cependant dans les grandes villes avec du gaz domestique artisanalement installé, ce qui met en danger les conducteurs et leurs clients, comme le reconnaît Moussa.
Il y a certains véhicules qui ont du mal à faire conduire les tuyaux d'arrivée. du coffre au moteur.
Ça traîne par terre, ça frotte. Alors c'est non loin du pot d'échappement. Ça frotte petit à petit, après les étincelles, ça prend feu et puis on n'arrive pas à éteindre si ce n'est pas le gaz qui est fini.
Sur la base du soutien de l'État, la Fédération nationale des syndicats de taximen et des acteurs du transport urbain du Burkina sensibilise depuis plusieurs semaines ses membres. Son président Emmanuel Nakoulma.
Lors de notre sensibilisation, on a trouvé même qu'il y a eu des gens qui ont eu à perdre la vie dans cette situation même de gaz. Donc, les gens ont compris qu'en fait, vraiment, l'utilisation du gaz et du butane dans les taxis comme source d'énergie n'est pas vraiment bien. Si vous voyez que les gens utilisent le gaz butane dans les véhicules et que ça les blesse, ça les tue, ils sont dans ça, c'est parce que c'est plus économique. Et à partir du 30 octobre, celui qui rentre dans un taxi et il trouve qu'un double bouteille de gaz qu'il descend. Parce que l'État a pris des mesures pour nous accompagner. Il n'y a pas de raison que l'État prenne des mesures et nous, on ne va pas l'absorber.
L'heure de vérité approche pour les taximen qui s'activent, confiant du soutien du gouvernement qui a promis 500 000 francs CFA par taxi pour remplacer leurs moteurs et un prêt pour le renouvellement du parc des taxis pour 2017. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016. Le candidat républicain laisse entendre qu'il pourrait assouplir sa position sur la question de l'immigration. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, continue de faire face à la controverse relative à la Fondation Clinton à la suite d'une nouvelle analyse de l'agence Associated Press. Timothée Donangmai, Donald Trump a-t-il fait volte-face?
Dès le départ, Donald Trump avait présenté un plan détaillé d'expulsion des 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis et même les coûts estimatifs de l'opération. Il s'était aussi engagé à faire construire un mur le long des 3200 kilomètres de frontière entre les États-Unis et le Mexique et à en faire assumer les coûts aux Mexicains. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, propose quant à elle une application plus humaine des lois de l'immigration et, pour ce qui est des expulsions, une concentration sur les immigrants posant une menace à la sécurité publique. Le candidat républicain semble maintenant avoir une nouvelle approche du dossier. Il veut, selon ses mots, être juste mais ferme. Il peut certainement y avoir un assouplissement parce que nous ne cherchons pas du tout à faire du mal aux gens, a-t-il expliqué mardi lors d'un forum citoyen à Austin, au Texas. Qu'est-ce à dire exactement? Pour l'heure, les démocrates, tout comme les républicains d'ailleurs, s'interrogent, surtout que l'équipe de campagne de Trump a reporté le discours qu'il devait prononcer cette semaine sur les grands axes de sa politique en matière d'immigration.
Son adversaire démocrate Hillary Clinton continue de faire face aux retombées de la controverse liée à la Fondation Clinton, pas vrai?
La Fondation de la famille Clinton a promis un certain nombre de réformes pour éviter des conflits d'intérêts au cas où l'ancienne secrétaire d'État Clinton serait élue à la Maison-Blanche, mais les républicains jugent ces efforts insuffisants. Une analyse par l'agence Associated Press des activités de Mme Clinton au département d'État montre, selon l'agence, que plus de la moitié des personnes qui l'ont rencontrée, hormis les responsables gouvernementaux américains, ont fait des contributions financières personnelles à la Fondation Clinton ou l'ont fait à travers des compagnies ou des associations, ce qui, selon les analystes d'Associated Press, pourrait poser un problème de conflit d'intérêts si Hillary Clinton était élue présidente des États-Unis. Réponse de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, l'analyse d'Associated Press est biaisée dans la mesure où elle ne prend pas en compte les rencontres de l'ancienne secrétaire d'État avec des diplomates étrangers. Pour le porte-parole de la campagne, Brian Fallon, c'est une déformation de la nature des rencontres entre Mme Clinton et des individus liés à des dons faits à la Fondation Clinton. Le candidat républicain Donald Trump a rebondi sur le sujet. Il n'est pas possible de déterminer où s'arrête la Fondation Clinton et où commence le département d'État, a-t-il déclaré mardi à Austin, au Texas.
Merci Timothée Donangmaï. C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde avec l'assistance de M. Outkou à la console. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos prêts, à nos 1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Et enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.